France Culture.
Tout le monde connaît la force irrésistible, foudroyante de la logique de Staline, la lucidité de cristal de son esprit, sa volonté d'acier, son attachement au parti, sa foi ardente dans le peuple et son amour pour lui. Tout le monde connaît sa modestie, sa simplicité, sa sollicitude envers les hommes, son implacabilité pour les ennemis du peuple. On sait qu'il ne souffre pas le tapage, les phraseurs et les bavards, les pleurnicheurs et les semeurs de panique. Staline est réfléchi, il ne montre pas de précipitation lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes politiques complexes. Et en même temps, Staline a la haute maîtrise des solutions révolutionnaires audacieuses et des tournants énergiques.
Grande traversée, devenir Staline.
Становление Сталина.
Troisième épisode, la conquête du pouvoir. Marie Chartron, Diffie Mariani.
65 pages. C'est un extrait de la biographie abrégée de Staline qu'on lisait partout au moment où il y a un peu de temps avant sa mort, quoi.
Ronald Grigorsuny, historien.
Stalin went to Finland.
Staline se rend en Finlande, qui fait partie de l'Empire russe à cette époque, dans une ville appelée Tammerfors. Où se tient une réunion des bolcheviks.
Décembre 1905, première conférence du Parti ouvrier social-démocrate de Russie.
C'est la première fois qu'il voit Lénine. Il ne l'impressionne pas au début. Il s'attendait à voir ce qu'il appelait un aigle des montagnes. Et puis quand il arrive là-bas, sur le côté de la scène, assis sur une marche ou par terre, il y a un petit homme. C'est Lénine. Lénine était très modeste. Il n'était pas dans l'ostentation. Plus tard, Staline a adopté cette manière d'être. C'est-à-dire qu'il feignait une sorte de modestie. Il faisait semblant d'être modeste, vous voyez, de ne pas aimer toute cette agitation autour de lui, tout en ayant, bien entendu, la plus haute idée de lui-même.
Lénine est enregistré fin mars 1919. Son discours s'intitule « Qu'est-ce que le pouvoir des Soviets ?» Dans le passé, dit-il, les pays étaient gouvernés par les riches, les capitalistes. Le mot « soviet » est désormais devenu compréhensible dans le monde entier. Il est devenu le mot préféré des travailleurs. Le pouvoir soviétique est la route vers le socialisme. La véritable route. C'est pourquoi elle est invincible. Nous y voilà. La révolution a bien eu lieu. Les soviets, conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats, sont devenus réalité. Mais nous ne pourrons pas parler ici de ces femmes et de ces hommes, de tous ces inconnus qui croyaient sincèrement en un pouvoir véritablement démocratique des soviets, en un pouvoir du peuple, de même que nous ne raconterons pas la révolution. Car nous devons suivre un protagoniste, Staline.
C'est un être complexe qui a combattu, qui a été en exil, qui a eu des amis dans tous les cercles. C'est pas un dilettante, c'est un travailleur.
Claire Mouradian, historienne.
En plus, il a eu aussi une expérience de terrain, il disait très pratique. À la fois au Caucase, à Bakou, dans le monde ouvrier, dans les syndicats, donc il connaît tous les éléments peut-être davantage que d'autres élites russes, des nobles, même Lénine, qui d'une certaine façon n'a pas d'expérience de terrain de la même manière. Il a été en exil, il a écrit, etc. Mais enfin, il n'a pas fait la grève à Bakou, il n'a pas fait le coup de main, il n'a pas obtenu de fusil. Donc tout ça lui permet d'arriver au pouvoir et de consolider son pouvoir.
Ce qui caractérise Staline, c'est qu'il était capable de monter une organisation en deux coups de cuillère à peau et de la faire fonctionner, de faire marcher tout ça.
Françoise Thom, historienne.
Il n'était pas brillant, c'était pas un orateur brillant. Il n'avait pas de charisme évident comme avait Trotsky, par exemple, ou même Lénine. Il avait un charisme plus grand que Staline, qui n'en avait aucun. Mais il avait cette persévérance dans la réalisation de ses projets dont aucun n'a été capable. C'est pas pour rien qu'il s'est imposé. Trotsky disait que c'était la pire médiocrité du parti. Il s'est fait avoir. C'est Trotsky qui s'est fait avoir. Staline était loin d'être un médiocre. Loin de là. Parce qu'il est efficace, Lénine l'utilise au moment de la guerre civile. Il l'envoie sur les points chauds du front parce que Staline n'hésite pas à fusiller déjà. Il organise des répressions de grande ampleur. Mais par contre, il obtient des résultats par ses méthodes. Et ça, Lénine était sensible à cette efficacité.
La réalité de ce monde en métamorphose est violente, très violente. Sur fond de Première Guerre mondiale finissante, la guerre civile fait rage dans l'ancien empire russe où, en résumé et à très gros traits, s'affrontent l'armée rouge bolchévique, les armées blanches loyales au tsar et en partie soutenues par les alliés, et les armées dites vertes de paysans, qui se soulèvent contre l'ancien régime et contre le nouveau régime, celui des bolcheviks, qui pratique des réquisitions. C'est sur cette toile de fond que commence l'ascension politique de Staline.
L'aventure de Tsaritsyne, elle est vraiment intéressante. On est en 1918, au cœur de la guerre civile. L'armée blanche cerne Moscou.
Thierry Robin, dessinateur et scénariste.
Les cadres militaires sont à droite, à gauche, ou ont été tués par le régime. Et donc Lénine n'a d'autres ressources que d'envoyer les membres de son entourage, des ministres, des gens qui n'ont aucune compétence de gestion ou militaire, pour protéger ce qui reste de Moscou. Et donc Staline est envoyé dans une petite ville du sud qui s'appelle Tsaritsyne. Parce que Tsaritsyne, c'est le nœud ferroviaire qui permet justement de ravitailler la capitale. Si l'armée blanche s'empare de cette ville, il n'y a plus d'alimentation qui va rejoindre Moscou. Donc c'est absolument capital que la ville reste soviétique.
Entre 1918 et 1920, Staline, qui s'entretient presque quotidiennement avec Lénine, est envoyé très fréquemment loin de Moscou. Il méprise les militaires professionnels de l'ancien régime, rappelés à la rescousse par Trotsky pour pallier le manque d'officiers expérimentés dans l'armée rouge. Dans une lettre du 22 juin 1918 adressée à Lénine et Trotsky, il s'insurge contre, je cite, « ces gratte-papiers, mous, complètement inaptes à la guerre civile telle que nous la pratiquons ».
Staline arrive en train, retrouve quelques complices à lui, des amis d'enfance ou des amis de lutte. Et surtout, il va faire quelque chose qui est assez significatif, c'est-à-dire il va rester dans son train blindé, il va jamais mettre le pied en ville. Des cadres du parti vont lui donner les informations et puis il va prendre ses décisions avec une barbarie sans pareil. Il y a un épisode particulièrement cruel dans cette affaire, c'est tous ces soldats qui ont été enfermés sur une barge. La barge est mise au milieu de la Volga et est coulée, donc tous ces soldats sont noyés d'un coup. Il va régner comme un vrai petit dictateur sur l'espace d'une ville. C'est intéressant le fait qu'il ne sorte pas de son wagon blindé et qu'il prenne ses décisions en aveugle, parce que c'est à peu près ce qu'il va faire toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne va jamais voyager, il ne va jamais sortir du RSS et il va diriger sans pouvoir constater la cruauté de ses décisions. C'est-à-dire que les choses les plus terribles seront commises hors Moscou, mais il n'en aura jamais aucun contact visuel puisqu'il reste dans le Kremlin ou dans sa datcha. Donc là aussi, c'est un apprentissage d'un commandement où il va déléguer toutes les tâches cruelles à d'autres personnes.
Staline n'a donc pas vraiment d'expérience militaire. Il échoue à stopper les armées blanches et est finalement rappelé à Moscou en octobre 1918. Il est alors en conflit ouvert avec Trotsky.
L'aventure de Tsaritsyne va convaincre Staline qu'il faut avoir une apparence plus ferme de dirigeant. Donc il va adopter le costume militaire qui ne quittera plus jusqu'à sa mort.
D'abord, Staline, qui est membre du comité central du parti bolchevique, a sur la prise du pouvoir par les bolcheviques en octobre 1917 une position très réservée, mais il ne s'y oppose pas. Il y a des dirigeants bolcheviques qui sont contre, comme Zinoviev et Kamenev, lui ne s'y oppose pas.
Jean-Jacques Marie, historien.
Mais il ne manifeste pas un enthousiasme exagéré. Ensuite, il remplit comme fonction une fonction qui est politiquement très importante, à savoir commissaire du peuple aux nationalités. Il est, vu son origine, bien placé pour assumer cette fonction.
Torniké Gordadze, politologue.
C'est Lénine qui le nomme à ce poste, donc c'est Staline qui établit ses frontières entre les républiques, futures républiques soviétiques, ses frontières ethniques. Et la question géorgienne provoque une tension entre Lénine et Staline.
Région sous administration russe depuis qu'elle a été conquise par l'Empire tsariste au début du XIXe siècle, la Géorgie a connu, après la Révolution, une brève indépendance entre 1918 et 1921.
Avec le traité de 7 mai 1920, la Russie bolchevique reconnaît l'indépendance géorgienne. En même temps, on sait que la Russie bolchevique prépare l'invasion de la Géorgie et cherche un prétexte pour soutenir les travailleurs géorgiens qui seraient maltraités par ce régime petit bourgeois, bien que socialiste, social-démocrate, parce que les premières élections en Géorgie sont gagnées par les sociodémocrates. Et Staline est parmi ceux qui pressent le pouvoir soviétique à envahir la Géorgie, ce nid d'anti-bolchevisme, comme il écrit, et à le rattacher à l'État soviétique. Les gens qui sont au pouvoir en Géorgie en 1918-1921, ce sont les mêmes marxistes qu'il a longuement critiqué dans sa jeunesse et contre lesquels il voue une haine féroce.
Georgi Kandelaki, chercheur.
La Russie soviétique envahit la Géorgie le 11 février 1921. Et alors c'est la guerre. Et la Géorgie choisit de se battre. C'est une guerre oubliée, totalement oubliée. Même en Géorgie, très peu de gens se souviennent de la manière dont cette grande guerre s'est déroulée. Le 25 février, l'armée rouge entre dans Tbilissi. Et au même moment, cette photo est prise à Paris, au palais de l'Élysée, où Akaki Tchenkeli, désormais ambassadeur plénipotentiaire de la Géorgie, présente ses lettres de créance au président de la République française, Milran. Le jour même où la Géorgie devient membre à part entière de la Communauté des Nations, elle est étranglée. C'est une histoire très tragique, totalement oubliée. Et tout ça, c'est Staline, c'est son œuvre.
Staline, et maintenant, veut que non seulement le pouvoir bolchevique soit installé à Tbilissi, mais aussi que ça soit rattaché à la Russie. Et là-dessus, il y a un désaccord entre Lénine et Staline, et Lénine traite Staline, qui est même pas russe ethniquement, d'être encore plus nationaliste, grand russien, chauviniste grand russien, c'est le terme qu'il utilise, que les gens qui sont ethniquement russes.
Finalement, une fois la Géorgie envahie et occupée, il y revient. Après une très très longue absence, Staline revient en Géorgie en juillet 1921. Et à sa demande, une réunion est organisée avec les ouvriers dans un théâtre. Le bâtiment existe encore aujourd'hui. Il se trouve près de la gare de Tbilissi. Il veut son triomphe. Il a gagné, mais il veut un vrai triomphe. Mais cette réunion est un désastre pour lui. Vous avez un public de prolétaires. Staline commence son discours en russe. Il est immédiatement interrompu et forcé de passer au géorgien. C'est l'un des derniers discours publics qu'il prononce en géorgien. Il n'a presque plus jamais parlé géorgien après ça. Mais ce qui est plus important encore que la langue, c'est la réaction du public. Il est submergé par l'hostilité du public. De nombreux témoignages, très imagés, rapportent que personne n'applaudit quand il parle. Et lorsque des membres du public prennent la parole, ils réduisent Staline en pièces. Ils l'accusent d'être un traître. Un ouvrier célèbre, Tati Kotvali, monte sur scène et traite Staline de Satan. Il lui lance « C'est Satan qui est en toi. On te connaît, Koba. On sait qui tu es. Pourquoi as-tu amené ces soldats russes en Géorgie ?» C'est un tel désastre pour lui que cela en devient un vrai drame. À mon avis, cette réunion est l'un des événements les plus importants de l'histoire géorgienne du XXe siècle et de la biographie de Staline aussi. Il est victorieux, mais en Géorgie, il reste vaincu.
Lacha Bougatze, écrivain et auteur dramatique.
En fait, Staline prend conscience qu'il est aussi malchanceux et voué à l'échec en Géorgie que lors de sa tentative avortée ici, 20 ans plus tôt, quand il était un jeune révolutionnaire après ses années de séminaire. C'est la dernière fois qu'il parle géorgien en public. Après cela, il se rend au comité central à la Tchéka et prononce ces mots tristement célèbres et tragiques pour la Géorgie. Il faut passer la Géorgie au fer rouge. Et il a effectivement tenu promesse.
Dans le sillage de la révolution, le nouveau régime bolchévique doit stabiliser son pouvoir tant dans la toute nouvelle République soviétique de Russie que dans les autres parties du territoire qui constituaient jusqu'en 1917 l'Empire tsariste. Ce qu'il fera, entre autres avec le concours de la Commission spéciale pan-russe de lutte contre la contre-révolution et le sabotage, ou, en version courte, Tcheka, la police politique qui est sous la responsabilité de Félix Dzerzhinsky. Elle est créée en décembre 1917 et son importance ne faiblira pas, en particulier sous Staline, au fil de ses multiples avatars et mutations. GPU, OGPU, NKVD, MGB, KGB, etc. Nous sommes en Géorgie, à Tbilissi.
Une entrée, un porche obscur dans la nuit de Tbilissi.
Nous nous trouvons sur le seuil de l'un des endroits les plus tragiques de Tbilissi et de l'histoire contemporaine de la Géorgie. Il s'agit de l'ancien siège de la Tcheka, la police politique soviétique, la maison de la terreur, comme on l'appelait.
Irakli Khvadagiani, historien.
Après l'occupation russe-soviétique, c'est dans cet immeuble de mars 1921 jusqu'en 1933-1934 que l'appareil de terreur du jeune État soviétique tournait à plein régime. À l'origine, la police politique s'appelait Tcheka, Commission extraordinaire, avant de devenir la GPU. Durant la première décennie du régime, la maison de la terreur se trouvait donc ici. C'est un immeuble typique du vieux Tbilissi. Et à l'époque, le rez-de-chaussée et le sous-sol faisaient office de prison. Quiconque faisait l'objet d'une enquête de la Tcheka était systématiquement arrêté et enfermé dans ses cellules, qui sont devenus aujourd'hui des logements privés.
Lacha Bakradze, chercheur en littérature et historien.
On peut penser qu'il ne voulait pas se retrouver comme un immigré en Russie, ressortissant d'un pays qui n'appartient pas à cet empire russe communiste, au demeurant déjà pourri à l'époque. Cela peut éventuellement se comprendre. Et par ailleurs, cette idée russe, déjà présente sous Lénine, consistait à réunir les territoires qui s'étaient peu à peu détachés de la Russie tsariste. Souvent, à l'Ouest, on pense que la Russie soviétique était différente, mais c'était un empire colonial tout comme l'était la Russie des tsars, avec un autre arrière-plan idéologique, naturellement. Mais sur le principe, l'Union soviétique était un empire au même titre que l'empire tsariste. C'est très important de comprendre ça.
Au début, les bolcheviks jouaient la carte des nationalités pour démolir l'État tsariste. L'empire tsariste était formé de... Il y avait la région russe, mais il y avait aussi des régions non russes, des régions halogènes. Des pays comme la Finlande, par exemple. Il y avait un bon morceau de la Pologne qui faisait partie de l'empire des tsars. Et puis, vous aviez le Caucase. C'était à l'époque des provinces. Ça s'appelait les gubernies, les provinces du Caucase du Sud, où le sentiment national était quand même, en tout cas pour la Géorgie et l'Arménie, était fortement développé. Et les bolcheviks ont joué la carte de l'éclatement de l'empire tsariste. Ils ont voulu s'appuyer sur les nationalités pour démolir l'empire tsariste. Lénine a proclamé le droit à l'autodétermination des peuples. Donc ça, c'était le programme officiel. Évidemment, l'idée de Lénine, c'est que ces peuples devaient être autodéterminés, mais qu'ils ne pouvaient souhaiter que de devenir communistes. Donc cette autodétermination était évidemment neutralisée par le fait qu'ils devaient être dirigés par des partis communistes qui, eux, obéissaient à la discipline du mouvement communiste international, qui était dominé par Moscou. Staline a suivi cette ligne, mais au moment de la discussion de la future constitution, de ce qui allait devenir l'URSS, Staline voulait que les différentes républiques non russes entrent dans la Fédération de Russie. Il ne voulait pas qu'elles restent indépendantes. Alors que dans la variante qu'a imposée Lénine, ces républiques ont conservé le droit à l'autodétermination et elles sont entrées dans la Fédération soviétique. Et pas dans la Fédération russe. Et Staline n'en voulait pas. Staline était centralisateur, et dès le début, il a compris que s'il voulait s'assurer un pouvoir solide, il devait s'appuyer sur ce sentiment national russe. Dans l'attitude de Lénine, il y avait une idée. Il pensait étendre cette fédération soviétique, il pensait l'étendre à toute l'Europe. Il se voyait déjà le vent en poupe, il voyait déjà la Roumanie, la Hongrie, devenues des républiques socialistes et qui pouvaient être intégrées dans l'URSS. Donc il pensait qu'il valait mieux que ces républiques entrent sur un pied d'égalité avec la Russie plutôt que d'être intégrées dans la Russie. Staline, lui, préférait tout de suite le contrôle et la centralisation. Et ça, c'est assez typique de la mentalité de Staline. Il ne voyait peut-être pas tellement la perspective de la soviétisation ultérieure de l'Europe. Et il pensait qu'il fallait bien tenir ce qu'on a et ensuite s'étendre. Cette propagande de Staline, elle est si profonde et elle était si porteuse qu'elle explique aujourd'hui la différence du jugement qui est porté sur Staline et sur Lénine. Poutine, par exemple, reproche beaucoup, même si vous l'écoutez, il a beaucoup reproché à Lénine justement d'avoir imposé cette formule pour l'URSS, parce que c'est ce qui a permis à l'URSS de se dissoudre, hein, le droit à l'autodétermination des nationalités de l'URSS. Alors que Staline, c'est quand même le rassembleur des terres russes qui a conquis la moitié de l'Europe, etc. Le jugement est positif. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui des monuments à Staline qui surgissent sur le territoire russe.
Un instant pour prendre quelques libertés avec la chronologie linéaire. Nous avons un généralissime Staline, vainqueur des nazis et rassembleur des terres russes, incarné dans ces monuments qui se redressent en Russie. C'est-à-dire un Staline restauré aux couleurs pastel, qui retrouve aujourd'hui un vernis de respectabilité au nom d'une histoire, certes terrible, mais, argumentons, aussi grandiose qu'elle fut terrible. Nous avons un dictateur qui règne sans partage dans les années 30 et 40, après avoir éliminé tous ses concurrents. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine. Mais avant cela, il y a de nombreuses strates, des pauses, des bifurcations possibles. Le parcours de Staline après la Révolution révèle davantage un opportunisme, une manière très pragmatique de se saisir des cadeaux du destin pour créer les conditions favorables à son pouvoir, qu'un plan politique organisé depuis le départ. Certains moments clés permettent son ascension.
Il y a le moment clé de la révolution d'octobre, où les bolcheviks prennent le pouvoir, et avec eux, Staline, qui se retrouve commissaire aux nationalités. Ensuite, le moment où Lénine le nomme secrétaire général du parti, même si à l'époque, le secrétariat général n'était pas un poste de pouvoir. C'est Staline lui-même qui a façonné ce poste, où en réalité, il aurait dû faire un travail de gratte-papier. Il l'a transformé en organe central du pouvoir. Mais cela ne s'est pas fait d'une année à l'autre. C'est grâce à son dur labeur, pour ainsi dire, que ce poste de secrétaire général devient synonyme de direction du parti. 1929 sera un autre moment clé de son ascension. C'est une période où beaucoup de choses changent en Union soviétique, où ce qu'on appelle la NEP, la nouvelle politique économique instaurée par Lénine, est bien terminée, après les premières années très dures de dictature bolchevique, où on ne savait pas encore comment construire l'État, la NEP octroyait une relative liberté. Ils avaient beaucoup expérimenté. Il y avait eu la terrible guerre civile, et lorsqu'elle s'est terminée, ils avaient dû rétablir une liberté de commerce relative afin que tout ne s'écoule pas. Cette nouvelle politique économique soviétique était censée être transitoire à l'époque de Lénine déjà, puisqu'elle incarnait un retour en arrière par rapport aux idées communistes. C'est autour de 1929 que commence la collectivisation, l'industrialisation. En 29, bien que cela se durcisse encore par la suite, Staline est déjà quasiment le seul dirigeant de l'Union soviétique. Peut-être tous ne le comprennent-ils pas à l'époque, mais lui sait qu'il est la personne décisive.
En 1925, j'ai été élu au 14e congrès du parti qui se tenait à Moscou.
Nikita Khrouchtchev, souvenir.
Ce congrès a laissé en moi une impression profonde. C'était quelque chose de se trouver à quelques mètres des responsables de l'État et de notre parti. C'était la première fois que je voyais Staline en chair et en os. Il m'a beaucoup impressionné. Et je crois pouvoir expliquer pourquoi en racontant un incident qui a eu lieu pendant le congrès. À un certain moment, notre responsable régional, le camarade Moïsenko, a demandé si le camarade Staline voulait bien se laisser photographier en compagnie de notre délégation. On nous a dit qu'il acceptait. Nous avons attendu longtemps, puis on est venu nous dire de nous rassembler dans le hall Catherine pendant une pause du congrès. Staline est arrivé, s'est assis, nous avons pris place autour de lui. Le photographe qui s'appelait Petrov a pris son appareil et s'est mis à nous donner des instructions sur la façon de tenir notre tête ou de diriger notre regard. Et brusquement, Staline a remarqué, d'une voix assez forte pour être entendue de tous, « Le camarade Petrov adore donner des ordres, Mais c'est désormais une chose interdite ici. Personne n'aura plus jamais le droit de donner des ordres à quiconque. Bien qu'il ait dit ça sur le ton de la plaisanterie, on l'a pris au sérieux. Et nous avons tous été profondément frappés de lui voir manifester une telle volonté démocratique.
Alors, en étant nommé aux nationalités, Staline, déjà, au commissaire aux nationalités, au début, Staline peut jouer justement sur les différentes périphéries. Il a aussi des renseignements des autres. Et puis, il est aussi préposé au contrôle des cadres.
Claire Mouradian, historienne.
Le contrôle des cadres, c'est un poste clé. Ça lui permet de nommer des personnalités loyales. Et petit à petit, il va se débarrasser de ceux qui pourraient lui faire de l'ombre, ses anciens compagnons bolcheviques du Caucase ou d'autres bolcheviques de Russie, plus brillants, etc., pour installer ces hommes qui lui doivent tout. C'est ainsi aussi à travers le contrôle des cadres qu'il réussit à consolider vraiment son pouvoir, à mailler le pays avec des hommes loyaux.
Si on prend ce qu'est la réalité du parti bolchevique, son fonctionnement, c'est un parti qui, même pendant la guerre civile, est ravagé par des discussions permanentes. Et ça ne cesse jamais.
Jean-Jacques Marie, historien.
Et Staline considère que ces discussions auxquelles il prend très peu part, il faut se rappeler qu'il est désigné secrétaire du comité central après un congrès en mars 1922 où il n'a pas dit un mot. Pas dit un mot, il ne parle pas. Ce n'est pas un homme d'idées. C'est un homme de pouvoir. Et sur quoi asseoir ce pouvoir si on est, après Lénine, à la tête d'un parti qui considère la discussion idéologique et politique comme étant l'axe de son existence? Donc, il faut un parti qui rompe avec cette tradition. Qu'est-ce qui peut remplacer les discussions politiques permanentes? C'est l'existence de privilèges et la défense de ces privilèges qui remplacent la discussion politique. Lénine, en mars 1922, est victime d'une attaque qui va l'isoler de la vie politique petit à petit. Et pendant que Lénine est malade, Staline en profite pour prendre une mesure tout à fait importante pour comprendre ce qui va se passer après. En général, on en parle peu de cette mesure. Le 15 juin 1922, il décide d'attribuer à 15 500 cadres du parti des avantages très intéressants. Premièrement, une résolution sur l'amélioration des conditions d'existence quotidienne des cadres du parti. Cette résolution, dictée par Staline, fixe comme salaire aux cadres du parti un salaire trois fois plus élevé que le salaire d'un ouvrier. Deuxièmement, ce salaire de base est augmenté de 50% si le cadre du parti a trois enfants et s'il travaille le soir ou les jours de congé après la fin normale de la journée de travail. Ensuite, alors qu'en 1921, la Russie soviétique a été victime d'une effroyable famine due entre autres à une sécheresse incroyable qui a fait 4 millions de morts, Staline décide d'attribuer au cadre des organismes centraux des soviets un paquet mensuel comprenant 12 kilos de viande, 1,2 kg de beurre, 1,2 kg de sucre, 4,8 kg de riz, des cigarettes et des allumettes, plus droit de vacances à l'étranger pour aller se soigner. Donc ils constituent, dès cette époque-là, ils ont un appareil du parti qui bénéficie de privilèges énormes par rapport au reste de la population et même par rapport au reste des membres du parti, 15 000 cadres, 15 500 exactement, qui savent qu'ils doivent à Staline la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent. Et cet appareil constitue petit à petit une super bureaucratie privilégiée qui va constituer un système qui va s'étendre à des centaines de milliers d'individus au fur et à mesure des années. C'est un clientélisme qui a des conséquences graves parce qu'il ne concerne pas simplement une partie du système politique, il va en devenir la partie centrale.
De gauche restant fidèlement dévoués à l'Union soviétique et à l'international communiste par un autre dévouement, par toute une autre fidélité que la majorité de la bureaucratie officielle.
Léon Trotsky s'exprime en français.
Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher. L'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Des idées et des méthodes, des marques et des lignes deviendront les idées et les méthodes internationales communistes.
Il monte aussi parce qu'il sait exploiter. Il voit que la plupart des grands du parti bolchevique, surtout quand Lénine commence à être malade et quand le pouvoir commence à lui échapper des mains parce qu'il est malade, la grande inquiétude de tous les grands successeurs potentiels, enfin les notables du bolchevisme, c'était de voir Trotsky s'imposer. Alors Staline a senti cela et il a tablé là-dessus. Donc il était très hostile à Trotsky dès le début. Mais il est resté dans l'ombre, il a manipulé, il a tiré les ficelles, il a su former des coalitions avec Zinoviev, Kameniev, les vieux bolcheviques. Et c'est à l'ombre de ces coalitions qu'il a réussi à marginaliser Trotsky en tirant les ficelles sans être en première place, sans se montrer. Et ça, c'est typique aussi de Staline, c'est qu'il n'agissait jamais à visage découvert. Il poussait d'autres en avant, et lui-même restait à l'ombre. Il a utilisé les méthodes bolcheviques pour noyauter le Politburo, et au sein de ce Politburo, Staline s'est constitué son noyau de fidèles, Molotov déjà, Voroshilov, qui est resté à l'ombre, mais qui a fini par évincer Trotsky, qui était pourtant dans la succession beaucoup mieux placé apparemment que Staline. Mais les autres se sont mis d'accord sur la personnalité de Staline parce qu'ils pensaient que c'était, comme Trotsky, ils pensaient que c'était un médiocre qui n'allait pas les éclipser. Hein. Zinoviev était aussi un orateur enflammé. Et tous ces gens-là se considéraient comme les successeurs naturels de Lénine. Et Staline était un nouveau venu, un peu un plouc qui venait de Géorgie, donc. Il n'avait pas de culture européenne, il ne parlait pas les langues européennes, etc. Donc il ne le prenait pas au sérieux. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir.
Il y a aussi une certaine condescendance à l'égard, bon, plus généralement, des Caucasiens, des gens du Sud, des Orientaux par les Russes, et puis de cet homme qui n'est pas le plus brillant, qui n'a pas fait de grandes études, qui est passé par le séminaire, bon, qui est bateau, qui ne parle pas très bien le russe, enfin, il parle avec un fort accent. Il n'a pas le brio, le panache de Trotsky ou des grands intellectuels du parti. Il y a cette dimension-là donc aussi qui va lui permettre d'avancer alors que les autres ne font pas attention à lui et puis ne prennent pas en compte son intelligence. Donc il y a un certain orientalisme et colonialisme de la part des élites russes notamment à l'égard de ces populations entre guillemets du sud, d'ailleurs qui sont appelées les culs noirs, hein, les caucasiens encore aujourd'hui. Tchorny Jop.
La création de ce dieu soviétique, c'est pas seulement lui, c'est aussi le fait que ce petit Staline existait dans son entourage, dans le peuple, il y avait ça. Donc, du coup, ça l'a amené au sommet. Évidemment, il a beaucoup œuvré pour être là, mais ça a permis quelque chose qui, dans d'autres situations, n'aurait pas pu aller aussi loin que ça.
Nino Kertadze, réalisatrice.
C'est à la fois l'entourage, la situation politique qui influence la progression vers le sommet de cette créature. C'est vraiment comme un Frankenstein, je sais pas, c'est quelque chose qui est très compliqué d'analyser avec les outils habituels. Si on parle de la complexité de la nature humaine, là, la complexité est au summum, je crois, dans les cas de Staline. Parce que c'est très difficile de faire quelque chose de linéaire, de, comment dire, de bien rond quand on parle de ce type de personnage. C'est comme éplucher un oignon. Plus on enlève les couches, et plus on s'approche à la vérité, et plus ça fait pleurer, et plus on voit autre chose.
Le Staline qui est passé à la postérité est un dirigeant tout puissant. Celui que la propagande représente visage de trois quarts, dans une lignée où, pour souligner une filiation naturelle, le précède Marx, Engels et Lénine. Mais le plus souvent, il est accompagné du seul Lénine. En décembre 1922 et tout début janvier 1923, pourtant, Lénine malade avait formulé quelques réflexions sur les membres du comité central dans une note assez brève appelée « Lettre au Congrès ». Évoquant les risques de scission du parti, il insiste tout particulièrement sur le pouvoir immense concentré dans les mains de Staline au poste de secrétaire général et sur sa trop grande brutalité, intolérable à un tel poste. Ces encombrantes notes, que l'on nommera par la suite « Testament de Lénine », Staline fera tout pour les faire oublier.
Staline réussit le tour de maître de se faire confier par le bureau politique la responsabilité personnelle du suivi médical de Lénine à partir du 18 décembre 1922. C'est lui qui nomme les secrétaires de Lénine, et ces secrétaires de Lénine, à qui Lénine dicte ses notes et à qui Lénine dit ce qu'il pense, elles répètent tout à Staline.
Les funérailles de Lénine ont lieu le dimanche 27 janvier 1924. Un film d'époque. Un océan de banderoles, de manteaux et de têtes couvertes. Du brouillard, les bulbes de la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge. Des gens qui se réchauffent les mains au-dessus de feux improvisés. Bonnets pointus des gardes et leurs manteaux jusqu'aux pieds. Au sol, la neige épaisse. Dans le journal L'Humanité, le reporter Arthur Ransom décrit les scènes. Au pied du Kremlin, Kamenev, le commandant en chef, couvert de fourrure jusqu'aux oreilles, sa moustache noire, blanche de gelée. À côté de lui, Boudioni, le leader cosaque, accoutumé à des froids terribles et paraissant indifférent à la température. Le cercueil fut apporté et hissé en haut du piédestal. Un petit groupe se dirigea vers la plateforme et y resta visible seulement par la vapeur qui émanait de sa poitrine. Staline, Kamenev et Tsurupa se tenaient devant la plateforme. Alexei Yurchak, anthropologue.
Lorsque Lénine est mort, ce fut d'abord un véritable choc pour le pays, car il était déjà considéré comme une figure fondatrice. C'était une disparition très importante. De nombreux citoyens lambda ont écrit au Politburo, c'est-à-dire au gouvernement, pour dire que Lénine ne pouvait pas être enterré comme un simple mortel, qu'on devait lui consacrer un grand mémorial, ou bien qu'on devait peut-être préserver son corps quelque temps pour que la population puisse venir lui rendre un dernier hommage. Et même au sein du parti, des figures comme Staline, mais pas seulement lui, il n'était pas le seul dirigeant à cette époque, considérait qu'un mausolée devait être érigé en sa mémoire. Parce qu'il était perçu comme le fondateur d'une ère nouvelle pour l'humanité tout entière, et pas seulement comme le père d'un État ou d'une révolution. Lénine était celui qui avait inauguré un futur où l'humanité serait libérée. Par conséquent, son mémorial devait être exceptionnel. En même temps, on commençait aussi à évoquer l'idée de conserver le corps, même si on n'était pas sûr que ça fonctionne. Il y a eu toutes sortes de débats. Certains étaient contre, car ils considéraient cette préservation du corps comme anti-marxiste et anti-matérialiste. Trotsky, en particulier, trouvait qu'il était totalement inapproprié de conserver Lénine comme le héros qui avait fait l'histoire. Il y avait une religiosité dans cette conservation d'un corps auquel les gens irait continuellement rendre hommage. C'était contraire au principe du marxisme et du léninisme, une aberration totale. Un grand monument suffirait, pas besoin d'un corps. Et puis de nombreux dirigeants ont commencé à se dire « Finalement, c'est comme un monument. On a des monuments, on a des sculptures. Ce corps sera comme une partie du mémorial. Peut-être que ça convient. » Ils ont commencé à envisager la question dans des termes matérialistes. L'option retenue a été celle d'une conservation dite humide, c'est-à-dire un embaumement, comme on le fait dans divers contextes religieux, par exemple chez les catholiques. Mais on le fait de manière temporaire, juste le temps de la veillée funèbre. Là, le scientifique Vorobyov a proposé une technique d'embaumement et de réembaumement continu du corps, qui permettait de le conserver indéfiniment. L'idée, c'était de procéder à un nouvel embaumement environ un an et demi après le premier. L'important, ce n'était pas seulement de conserver le corps, mais aussi de préserver l'apparence exacte de Lénine au moment de sa mort. Une approche nouvelle et unique en son genre. On a conservé de nombreux corps au cours de l'histoire, par exemple les momies, mais elles ne ressemblent plus à la personne, elles sont desséchées. Dans le cas de Lénine, il fallait garder la même apparence. On ne tolérait pas la moindre petite altération. Ce qui était important, c'était de conserver pour l'histoire, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi tout le corps devait être préservé. Les orteils, les talons, les jambes, le torse, le dos, tout devait rester inchangé. La peau devait rester identique, sa couleur, son élasticité, et toutes les articulations devaient rester souples. Ils ont conservé le corps comme s'il venait tout juste de mourir, l'ont figé dans un état de mort suspendue.
Aujourd'hui encore, des scientifiques surveillent et entretiennent le corps de Lénine, que l'on peut voir en visitant le mausolée sur la place Rouge.
D'une certaine manière, le corps de Lénine est devenu l'expression matérielle du léninisme. La personne Lénine était morte, mais le léninisme, lui, continuait d'exister et d'incarner la vérité ultime du futur, la figure immortelle du léninisme. Le Parti communiste soviétique s'est pleinement identifié à cette figure. Durant toute l'histoire de l'Union soviétique, dans chacune de ses périodes successives jusqu'à la fin, c'est-à-dire son effondrement en 1991, le Parti s'est toujours exprimé dans la langue du léninisme. Il était le porte-parole de Lénine. Lénine avait disparu, mais le Parti a continué à parler en son nom, à façonner la société et le futur de la révolution en son nom. Le corps de Lénine est devenu l'incarnation du parti lui-même. Tous les dirigeants soviétiques pouvaient être, et ont effectivement été critiqués, ou même criminalisés à un moment donné, comme ce fut le cas de Staline ou Khrouchtchev ou d'autres encore. Mais le parti, en tant que corps collectif, n'a jamais été critiqué jusqu'à la toute fin. Et quand il l'a été, l'URSS s'est effondré. Cela a contribué à son effondrement. Le parti, en tant que corps collectif, ne s'incarnait pas dans des individus précis, comme Staline, par exemple, ou plus tard Khrouchtchev. Il s'incarnait dans le corps de Lénine. Thank you.
comment maîtriser le récit du passé. Aujourd'hui, en politique, on appellerait ça un bon narratif. Dans les années plus tardives de sa dictature, Staline est seul en scène. Il écrira et fera écrire son passé idéal, allégé de ses scories dérangeantes, mais aussi enrichi de quelques rencontres et anecdotes qui ne se sont jamais produites. On pourrait dire son passé augmenté. Une chose que l'on ne questionnera plus pendant longtemps, dans tous les cas, c'est qu'il est l'héritier naturel de Lénine.
Staline a été dès le départ très favorable à la conservation de Lénine. Il avait sans doute une idée très pragmatique derrière la tête. On ne connaît pas avec certitude toutes les raisons qui le motivaient. On a beaucoup spéculé là-dessus d'ailleurs. Mais je suis d'accord avec l'interprétation suivante. Il était l'un des plus grands partisans de cette idée dès le départ parce qu'il avait réalisé qu'il pouvait se servir de Lénine pour légitimer son propre pouvoir. Très pragmatique.
Camarades, nous sommes, nous communistes, des gens d'une facture à part. Nous sommes taillés dans une étoffe à part. Nous formons l'armée du grand stratège prolétarien, l'armée du camarade Lénine. Il n'est rien de plus haut que l'honneur d'appartenir à cette armée.
Staline. Discours au 2e congrès des soviets de l'URSS, le 26 janvier 1924. Publié dans la Pravda, le 30 janvier 1924.
En nous quittant, le camarade Lénine nous a recommandé de tenir haut et de garder dans sa pureté le glorieux titre de membre du parti. Nous te jurons, camarade Lénine, d'accomplir avec honneur ta volonté. En nous quittant, le camarade Lénine nous a recommandé de garder l'unité de notre parti comme la prunelle de nos yeux. Nous te jurons, camarade Lénine, que là encore, nous accomplirons avec honneur ta volonté.
Staline, c'est le dirigeant. Par exemple, si on pense au langage corporel, il y a la célèbre histoire du serment. Ce serment est prononcé au pied du mausolée de Lénine, sur fond d'ailleurs d'une autre histoire savoureuse. Le camarade Trotsky est en voyage quand Lénine meurt. Il veut précipiter son retour à Moscou pour les funérailles, mais Staline lui dit de ne pas se presser, si bien que Trotsky n'arrive pas à temps. Et Staline fait ce discours, qui, dans les mythologies, sera présenté plus tard comme un serment. Puis, le réalisateur Michael Ciaurelli, que je qualifierais de réalisateur personnel de Staline, fait un film qui a aussi pour titre le serment. C'est là que l'épisode est incarné en images. Qu'est-ce que c'est le serment? Staline fait le serment. Il jure devant le mausolée de Lénine, tout nouvellement construit, encore en bois à l'époque. En réalité, ce n'est rien d'autre que l'équivalent soviétique d'une pyramide. Il jure qu'il sera fidèle à la ligne générale montrée par Lénine. Et il est désormais la réincarnation de Lénine. Dans le film, c'est mis en scène comme ça. Un personnage de femme venu de la région de la Volga entreprend un long voyage vers Moscou afin de remettre une lettre à Lénine. On a déjà vu plusieurs fois sur la lettre le mot russe « Léninou », c'est-à-dire « pour Lénine ». Et lorsqu'elle arrive avec d'autres personnes, l'une vient de Géorgie, bien entendu, d'autres d'Asie centrale, Tous ces gens veulent faire leur doléance aux camarades Lénine. C'est comme à l'époque tsariste. Le tsar est infiniment loin et on doit venir à lui afin qu'il comprenne enfin que le peuple souffre. On doit venir à Lénine. Ils arrivent à Moscou et Lénine est mort. Alors ils ne savent plus quoi faire. Mais la femme voit cet homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle l'a aperçu une seule fois. Elle voit Staline devant le mausolée. Et là, elle comprend. C'est-à-dire le peuple comprend, puisqu'elle en est le symbole. Et elle donne la lettre à Staline. Et nous, les spectateurs, nous comprenons tous que Lénine est mort, mais qu'il continue de vivre en Staline.
Diese heute vielleicht so als sehr naiv.
Cela peut passer aujourd'hui pour de la propagande très naïve, mais ça fonctionne.
Wir wissen, dass Lenin zwar gestorben
ist, est mort,
Lenin
il vit en Staline.
Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, стану в рабов.
Devenir Staline. Troisième épisode, la conquête du pouvoir. Avec Lacha Bakradze, Lacha Bougadze, Tornike Gordadze, Gheorghi Kandelaki, Irakli Khvadagiani, Nino Kirtadze, Jean-Jacques Marie, Claire Mouradian, Fabien Nury, Thierry Robin, Ronald Grigorsuni, Françoise Tom, Alexei Yurchak, et les voix de Lucie Grunstein, David Mijot et Hervé Pierre. Merci à Irma Jajanashvili et Irma Inaridze pour les contacts et les traductions en Géorgie, à Sovlab, à Régis Janté, Charles Lourievitch et Thomas Biachi. Collaboration Anne de Pelchin. Documentation Anne-Lise Signoret. Documentation musicale Antoine Vuilloz. Documentation INA Sophie Enoch. Prise de son Benjamin Thuo, Florent Layani et Lucien Lefebvre. Mixage, Manuel Couturier. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Une grande traversée de Marie Chartron, réalisée par Diffie Mariani.